France Culture.
Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, bonjour. Une émission intitulée « Contes doux amers de ma mère Russie ». Aujourd'hui, en compagnie de Pierre Gonod, historien de la Russie, professeur à Sorbonne Université, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, à l'occasion de la parution chez Vibration Éditions de son dernier ouvrage qui réunit sous ce même titre 30 récits de la Russie, en survolant ainsi l'histoire et la légende de ce pays. Pierre Gonod, bonjour.
Bonjour.
Ce livre paraît en deux volumes, le premier avec 15 récits qui datent d'avant la révolution de 1917, puis en un second volume, 15 récits qui couvrent la période de 1917 à nos jours. Alors pour commencer, quelques mots sur l'idée générale de cet ouvrage qui traverse plusieurs siècles d'histoire.
Là, l'idée, c'est évidemment de dire tout ce qu'on ne peut pas dire dans un livre d'histoire, tout ce qu'on voudrait dire en plus, les impressions que l'on a, et d'autre part, c'est utiliser le très riche matériau des légendes, des chroniques, pour essayer de donner plus directement l'atmosphère que l'on ressent en lisant ces textes.
Alors, ces textes paraissent donc en deux volumes, on a dit. Le premier paraît qu'en septembre-octobre 2025, c'est ça?
Il paraît le 1er septembre, voilà, donc ça y est, il vient de sortir.
Voilà, et le deuxième, ça va être en janvier 2026, c'est ça?
En 2026, alors la date exacte n'est pas encore arrêtée, mais disons au printemps, fin de l'hiver, début du printemps 2026.
Très bien. Alors aujourd'hui, nous restons dans le premier volume, et évidemment une très longue période, hein, il faut dire, qui est très intéressante au plan religieux aussi, parce qu'évidemment, la religion, l'arrivée du christianisme aussi, joue un rôle capital dans la formation même de la nation russe, ou de ce qu'on connaît de ça. Vous êtes un grand historien de la Russie et je voudrais vous demander, puisque là vous signez quand même des comptes, quelle est la part de votre propre création là-dedans? Parce qu'évidemment l'histoire est toujours là. Hein.
Oui, mais c'est-à-dire que là il y a des sources, un certain nombre de chroniques russes, de vies de saints et de récits plus tardifs, biographiques, mais évidemment qui laissent des trous, qui laissent des vides. Et là, le plaisir, c'est de les combler, alors à sa façon, en essayant de rester quand même dans l'esprit du temps, pour chaque histoire, des croyances, justement, qui peuvent être mélangées. C'est-à-dire, il y a le paganisme, puis l'arrivée du christianisme, les résistances, ou en tout cas les mélanges, les syncrétismes. Et puis après, au sein du christianisme, la peur des démons. C'est très important, et ça, il y a beaucoup de récits à ce sujet. Et donc là, j'avais envie aussi de leur faire une petite place.
Alors, quel est le choix des récits? Enfin, il y en a 30. Je pense qu'il aurait pu y en avoir des dizaines, hein, ou des centaines même.
J'ai essayé de couvrir un peu les différentes époques. Donc, il y a un récit sur la préhistoire, donc la plus ancienne, qui renoue essentiellement avec l'archéologie et avec quelques bribes qu'on a sur le paganisme avant la conversion. Et puis après, c'est l'arrivée des Russes, ce peuple qui va donner son nom au pays, et qui sont des Vikings, et comment ils s'installent là. Et puis donc la conversion sous le prince Vladimir ou Volodymyr, puisque c'est le même à Kiev, en fait, qui règne là, et qui est considéré par les Ukrainiens, par les Russes, comme aussi le fondateur. Et donc ce moment, et là j'ai pris le moment de sa mort en 1015, en l'an 1015, que peut-il penser au moment où il va mourir et quel souvenir peut-il avoir puisqu'il a d'abord été païen, puis il s'est fait baptiser. Donc c'était
ça. Il faut peut-être rappeler que le baptême de la Russie date du Xe siècle.
Hein, voilà, 988 exactement, et dans les contextes des relations avec Constantinople, avec l'Empire byzantin, et des enjeux à la fois religieux bien entendu, mais aussi politiques très importants. Alors après, j'ai parlé pas mal de Novgorod, cette grande cité du Nord, grande cité chrétienne avec son archevêque. Et on a beaucoup de récits sur ces évêques de Novgorod, les miracles qu'ils accomplissent. Et là, j'ai combiné des histoires sur ces évêques et les prodiges qu'ils ont pu faire. Puis Moscou, évidemment, le moment où Moscou commence à s'affirmer. Et quand on arrive donc à la période vraiment de l'Empire des Tsars, donc Ivan le Terrible a droit à deux récits, à lui tout seul, après le premier des Romanov et son mariage. Un mariage politique, c'est très compliqué parce qu'il y a aussi tout un tas de superstitions. Est-ce que l'épouse est féconde? Est-ce qu'elle va donner des enfants? Est-ce que cette union sera bénie? Ensuite, la révolte de Stien Karazin, et là, dans cette, ce paysage de la Volga, où il y a des faux tsars, où il y a des cosaques, où il y a aussi des sorcières, des magiciennes qui dirigent les rebelles. Et puis on arrive déjà au XVIIIe siècle avec Mientchikov, un des premiers oligarques, on pourrait dire, qui est envoyé en Sibérie et comment il finit en Sibérie. Ensuite, l'époque des guerres napoléoniennes avec une troupe de théâtre français, de français qui joue tous les rôles dans cette époque. Et on arrive après, donc, vers le moment à l'approche de la Révolution. Et donc, c'est juste avant la guerre de 14, le déclenchement de la guerre. Et donc, on termine là-dessus et la suite. Donc là, ça s'appelait les récits des temps passés. Et la suite, ce sera les temps qui ne passent toujours pas parce qu'ils ont laissé une empreinte très lourde.
Donc, les temps passés, ça commence au Xe siècle, en gros, on va dire, c'est ça, jusqu'au XXe. Donc, l'histoire de la Russie première, puis de l'Empire. Les sources, alors vous connaissez très bien les sources, bien sûr. Comment faire pour construire quelque chose avec ça?
Il y a la notion du temps, donc ça vient des chroniques, puisque la chronologie s'est introduite avec le temps byzantin, puisqu'on calcule en années du monde, depuis la création du monde, à partir du moment où on a été baptisé. Et donc c'est le calcul biblique, bien entendu. Et puis, évidemment, après, c'est les grands événements autour de ces cités qui sont d'abord les unes et les autres indépendantes, puis Moscou qui, petit à petit, va tout centraliser. Il y a un récit qui vient de Moscou qui traite justement des populations de l'Oural qui se méfient de ces gens qui arrivent de Moscou, essentiellement pour prélever des impôts et pour assujettir les populations indigènes. Donc, on essaie de voir un peu ça à travers des témoignages de vie de saints. Alors, bien entendu, il faut garder la saveur de ces témoignages, de cette croyance dans les miracles, dans les prodiges, mais aussi, évidemment, faire sentir dans quelle mesure tout ça se déroule en fonction d'une histoire longue.
L'histoire est longue et, évidemment, comme vous avez dit, elle est marquée par certains moments très importants. Alors, un des moments importants, ça se situe, je pense, au XVIIe siècle, c'est l'histoire d'Ivan Soussanin. Et ça a inspiré plusieurs œuvres d'art et de musique en particulier. Alors, le compositeur Glinka lui a consacré tout un opéra qui s'appelle Une vie pour le tsar, mais qu'on connaît aussi comme Ivan Soussanin. Je pense que ce nom a été donné après par le régime soviétique, parce qu'évidemment, on ne voulait plus parler d'une vie pour le tsar. Et c'est un opéra donc qui a été créé en 1836 à Saint-Pétersbourg. Et nous avons ici la chance d'écouter la voix absolument angélique de Teresa Stitch-Randall, accompagnée par l'Orchestre des Concerts Lamoureux sous la direction d'Igor Markevitch. C'est un enregistrement absolument merveilleux et historique, enregistré à Paris en novembre et décembre 1957. Thank you. Après donc la cavatine du premier acte d'une vie pour le tsar de Glinka, chantée par Teresa Stitch-Randall, nous revenons à notre conversation avec Pierre Gonod sur la parution de son livre « Contes doux amers de ma mère Russie », avec des contes donc composés, mais avec ses connaissances historiques bien sûr, sur la très longue histoire de la Russie, et peut-être des Russies hein, au début, c'est ça.
On commence avec ce qu'on appelle la Russe de Kiev, parce que évidemment pour les Russes c'est le début de leur histoire, et ça j'ai essayé de bien le préciser. C'est-à-dire que le prologue en quelque sorte de tous ces récits, c'est l'aventure, ou plutôt la très mauvaise aventure d'un jeune soldat qui est blessé, et donc qui est persuadé de tout connaître, de tout savoir, et c'est un soldat de 2022. Et effectivement, ses grands-mères, les babes, vont lui raconter l'histoire, mais justement en dévoilant un petit peu des choses qu'il ne savait pas et qu'il apprend ainsi à connaître un peu mieux. Donc c'est aussi le fil conducteur du livre.
Vous répondez comme ça à la question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans ces récits? Parce qu'évidemment, ils sont assez divers quand on les lit. Là, on va prendre quelques exemples tirés plutôt de relations avec la religion qui est très importante, l'arrivée du christianisme et puis les problèmes entre chrétiens aussi. Ça, tout ça, c'est important. Mais est-ce que pour vous, il y avait un fil conducteur vraiment important où...
Ce qu'on appelle le roman national dans tous les pays, et c'est comme pour nous la France, on commence avec Clovis et on va jusqu'à De Gaulle ou même jusqu'à nos jours. Et en disant, c'est un peu le même pays, la même histoire. Alors, pour les Russes, c'est très profond ce sentiment parce qu'il y aurait ancré dès l'école et plus encore de nos jours où on martèle un peu tout ça. Et donc, j'ai repris ce chemin, mais en montrant aussi qu'il n'est pas aussi simple qu'il en a l'air. Et que, effectivement, il y a d'abord la Russe qui est différente de la Russie, puis la Russie moscovite qui ne se fait pas de manière angélique, mais qui se fait avec un mélange de violence et d'adhésion. Et donc, il y a une sorte de réflexion qui sous-tend aussi, c'est toute cette histoire, elle est une histoire douce amère, c'est bien le propos. Et c'est ça aussi qui est peut-être intéressant de ne pas la faire simplement une histoire triomphale.
Alors, je vous ai demandé de prendre quelques extraits pour illustrer ce livre, mais qui est très riche. Hein. C'est, les extraits, c'est pour donner goût vraiment à la lecture, mais après, il faut y aller parce que c'est vraiment très, très riche. Le premier que vous avez choisi, c'est sur l'opposition paganisme et christianisme. Il faut situer d'abord, évidemment, après, vous nous lirez un extrait et puis vous nous direz aussi pourquoi cet extrait et de quoi il s'agit.
Là, c'est dans le récit qui s'intitule « La Rousse de Kiev ». Là, c'est un clin d'œil là aussi. Donc, on est en 1015, au moment où Vladimir, celui qui a baptisé le pays, qui est le prince de Kiev, donc le chef de toute la tribu, va mourir. Il se sent décliné. Et là, il va voir en quelque sorte en flashback les moments qui ont précédé sa christianisation. Et il se demande au fond, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Et l'un des événements traumatiques qui a précédé le baptême, c'est le martyre des deux premiers chrétiens, Vareg, donc scandinaves, qui étaient à Kiev. Et effectivement, c'est un événement violent à l'époque où le christianisme n'est pas la religion d'État, où il y a simplement des minorités chrétiennes dans Kiev et qui, là, en l'occurrence, vont être persécutées. Donc, je peux vous lire pour vous donner une idée. C'était en l'an du monde 6491 ou 983 de l'incarnation du Christ, puisqu'on avait deux chronologies. La maison des Varegs chrétiens se trouvait à l'emplacement de l'église de la Sainte Mère de Dieu, cette cathédrale Notre-Dame de la Dîme que Vladimir a fait construire depuis. Mais cette année-là, il avait insisté impuissant au massacre. Les Kieviens étaient venus avec des haches, ils avaient abattu les poteaux qui soutenaient l'étage où Karl et Roulav essayaient de les repousser. La maison s'était effondrée sur eux tous, assaillants et assaillis. C'est ainsi que la terre russe a été arrosée du sang de ses premiers martyrs chrétiens. Ce jour-là, Vladimir n'a eu ni le temps ni le courage d'aller affronter la foule en furie, de lui interdire ce meurtre. Il est arrivé après l'assaut sur les ruines fumantes. Il a laissé les chrétiens terrorisés emporter les deux corps et les conduire dans la petite église Sainte-Élie, la seule qui existait alors à Kiev. Vladimir est resté sur les ruines, en proie à une sourde tristesse. Tout le monde s'est retiré. C'est 5 ans avant le baptême et on sent qu'on est dans un autre monde, encore un monde païen.
faut dire que Byzance avait fait des tentatives de christianisation avant, mais qui n'ont pas.
Alors, il y avait
des
relations commerciales très étroites. Il y a des traités qui prévoyaient ces échanges tous les ans. Mais pour l'instant, les Russes étaient libres, en quelque sorte. Il y avait quelques-uns qui étaient déjà convertis, mais la majorité qui ne l'étaient pas. Et évidemment, dans les années de disette, quand il y a des phénomènes inquiétants, on fait des sacrifices, on exige tout d'un coup des gages, et c'est comme ça que ces deux premiers chrétiens ont été sacrifiés, ce qui sanctifie, comme le dit évidemment, là c'est la mentalité du chroniqueur qui est un moine, ce qui sanctifie la terre russe. Alors pour un autre extrait, c'est le récit qui s'intitule « La démone et la madone » qui se situe en l'an 1170. Donc là, on est dans la ville très chrétienne de Novgorod, mais qui a résisté au début au christianisme. Et donc il y a encore en coulisses des forces un petit peu obscures. Et donc j'ai imaginé que parmi les petits diacres ou diacrions, il y avait quelqu'un qui n'était pas vraiment de la religion chrétienne, mais qui va paradoxalement aider l'évêque. Alors l'évêque a réussi à le démasquer et utilise ses pouvoirs en fait pour faire un voyage fantastique de nuit en une seule nuit pour Jérusalem, puisque lui veut voir Jérusalem. Et puis, à une autre occasion, plus tard, il y aura donc le moment où Novgorod est assiégé par les troupes du prince de Souzdal, Andrei Bagalioubski, et où ces troupes qui attaquent une ville chrétienne, vont être repoussées par un miracle grâce à une icône. Et donc là, c'est un récit qui est tout à fait authentique. Hein. Donc là, je vous lis un petit extrait. « À la sixième heure du jour, quand le soleil était à son zénith, toutes les troupes russes commencèrent à monter à l'assaut de la cité. Ils décochèrent leurs flèches comme une pluie diluvienne. Alors, par l'effet de la providence divine, l'icône tourna son visage vers la cité et l'archevêque vit qu'elle versait des larmes qu'il reçut sur sa chasuble. Au grand, terrible miracle, comment cela pouvait-il provenir d'un bois sec ? Ce ne sont pas des larmes, mais le signe de sa miséricorde. C'est de cette façon que la Sainte Mère de Dieu prie son Fils, notre Dieu, pour notre cité, afin qu'il ne permette pas aux ennemis de l'outrager. » Et effectivement, les ennemis vont être dispersés. Et l'archevêque, évidemment, à ce moment-là, est au sommet de sa réputation. Mais comme son petit démon Diacrion est toujours là, il va lui tendre un piège. Et pour savoir comment il se tire de ce piège, eh bien, vous le saurez en lisant la suite.
Tout à fait. Et alors, on va avancer dans l'histoire, hein, bien sûr. Maintenant, des problèmes entre les chrétiens, vraiment. Ouais.
Alors là, on est en plein dans la révolte de Stienkarazin, donc le fameux cosaque du Don. Et donc, on est en l'an donc 1670. Et parmi les sympathisants, les partisans de Razin, il y a cette Aliona qui est documentée hein, dans les récits de la répression de la révolte, que l'on a une ex-nonne, elle aussi, mais que l'on a accusée d'être une sorcière qui détournait les balles, qui empêchait les fusils de tirer, etc. Donc il y avait beaucoup de superstitions. Et voilà quelques lignes qui montrent l'atmosphère. On est sur la Volga, qui est une zone de Astrakhan jusqu'à Kazan, pratiquement en rébellion tout entière. De son côté, Razin s'emparait de Saratov, plus bas sur la Volga. Au-devant de lui, il faisait circuler des « lettres félones », comme le disaient les autorités de Moscou. Il appelait tous les bons sujets du tsar à se lever et à égorger les boyards. « Car ce sont eux, disait-il, les vrais félons. N'est-il pas vrai que la bonne tsarine est morte, soudain, l'an dernier, bientôt suivie dans la tombe par le tsarevitch Semyon Alexeyevitch ? Et l'on prétend que le tsarevitch Alexey Alexeyevitch, à son tour, est décédé le 17 janvier de cette année 1670. Mais ceci est pure tromperie, car le tsarevitch a rejoint Razin avec le bon patriarche Nikon, dont les traîtres voulaient aussi se débarrasser. » Stienka les a recueillis et installés sur un splendide navire qui remonte la Volga. Ils sont protégés dans une cabine de chêne au beau milieu du pont et nul ne peut accéder jusqu'à eux. Mais ils envoient aussi des lettres dans tout le pays appelant le peuple à suivre l'ataman Razin. Comme ils avaient peur alors à Moscou. Donc là, effectivement, au cœur de la révolte, on ne sait pas qui est le vrai tsar, qui est le faux tsar. Et donc, le tsar, le vrai Alexis, effectivement, est veuf. il va se remarier et il aura Pierre le Grand de son deuxième mariage. Et donc, pour les révoltés, pour les vieux croyants, Pierre le Grand est le fils d'un Allemand et l'Antéchrist n'est pas le vrai tsar. Donc, ça explique aussi pourquoi, pendant la suite, au moment de ces réformes, il y aura une telle opposition à Pierre le Grand. Donc, on est dans le fantastique d'un côté, mais aussi dans l'historique pour ces réflexes de population qui croient au bon tsar, celui qui va les délivrer, celui qui va rétablir la justice.
Peut-être en quelques mots, l'histoire des vieux croyants, enfin, juste pour nous rappeler. Bon.
Oui, alors, en deux mots, on est donc dans les années 1653 à 1666, chiffre 66, 666, que tout le monde a remarqué à l'époque, où donc le patriarche légitime, Nikon, le chef de l'église orthodoxe russe, veut mettre en parfaite conformité le rite russe avec le rite grec, jusque dans les formules, dans l'orthographe. Et effectivement, le fait qu'il change le nom de Jésus, par exemple, puisqu'il faut l'écrire avec deux voyelles au lieu d'une, eh bien, pour les vieux croyants, ce n'est plus le Christ, c'est l'Antéchrist. Philologiquement, Nikon a raison, mais évidemment, la réaction est très forte. Et une partie, donc, des fidèles refusent, menée par des leaders évidemment très intransigeants, ces réformes. Et donc il y aura dès lors dans l'église orthodoxe russe une dissidence de conservateurs, de rigoristes qui refusent ces réformes et qui donc pratiquent en solitaire.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, l'histoire des vieux croyants a profondément marqué l'histoire de la Russie, parce qu'on la voit aussi dans des opéras, aussi.
Tout à fait.
Revanchina, tout ça, on voit là, tout à fait. Écoutez, Pierre Gonod, je vous remercie beaucoup. Alors, je voudrais juste rappeler votre livre sur Novgorod que vous aviez présenté ici même il y a 2 ans. Excellent livre pour montrer l'histoire de cette ville qui a une histoire assez particulière, avec un gouvernement aussi tout à fait particulier. Et ça, c'est vraiment l'historien qui parle, mais toujours avec votre talent de simplicité. Et évidemment, maintenant, vous revenez avec des contes. On vous découvre aussi comme auteur en dehors de l'histoire, mais quand même historiquement tout à fait fondé. Je vous remercie beaucoup. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Contes doux amers de ma mère Russie, chez Vibration Édition, et c'est en 2025. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Réalisation François Connac. Prise de son Cédric Châtelus. Vous pouvez réécouter, télécharger cette émission sur le site franceculture.fr ainsi que sur l'application Radio France. Et dans quelques instants, vous retrouverez Solae, le rendez-vous protestant avec Jean-Luc Gaudreau.